Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Dans un instant, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. S'il vous manque des clés pour décrypter les sujets que nous traitons à l'antenne, eh bien surtout n'hésitez pas, appelez-nous, rejoignez-nous ici à Paris. Nos correspondants, nos envoyés spéciaux, nos experts au sein de la rédaction vous répondent en direct 33 9 693 693 70 et vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Sans oublier, je le répète tous les matins, mais c'est important, sans oublier de nous indiquer un numéro de téléphone, car le principe de cette émission, c'est de vous donner la parole, c'est de vous entendre évidemment sur l'antenne d'RFI. Dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat. Nous parlerons de Laurent Gbagbo. Doit-il bénéficier de la liberté provisoire? En mars dernier, la Cour pénale internationale avait refusé la liberté conditionnelle demandée par l'ancien président ivoirien. Les juges avaient notamment estimé que Laurent Gbagbo pourrait profiter d'une éventuelle libération pour prendre la fuite. En tout cas, hier, la Cour d'appel de la CPI a ordonné de réexaminer la situation de l'ancien président. La CPI va donc devoir se pencher à nouveau sur cette question. Laurent Gbagbo doit-il continuer à être détenu ou doit-il être libéré en attendant la fin de son procès? Nous en parlerons ensemble. 33 9 693 693 70. La première question nous vient de Côte d'Ivoire, justement, de Yamoussoukro. Bonjour Célestin.
Oui, bonjour monsieur.
Bienvenue sur l'antenne d'RFI. Vous avez des questions sur les tensions autour de l'esplanade des mosquées à Jérusalem?
Effectivement, la semaine dernière, deux policiers israéliens ont été tués à l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Alors, l'esplanade a été ouverte, mais on a installé des détecteurs de métaux, ce qui a provoqué l'affrontement entre policiers israéliens et arabes. Je voudrais savoir comment expliquez-vous ces affrontements. Ensuite, en quoi la pose de métaux, des détecteurs de métaux est-il un problème?
Oui, c'est vrai, et on l'a encore vu hier pour le quatrième jour consécutif, de nombreux fidèles musulmans protestent contre l'installation par Israël de détecteurs de métaux aux portes d'accès de ce lieu saint. Bonjour Guilhem Delteil.
Bonjour Juan, bonjour Célestin.
Vous êtes le correspondant permanent de RFI à Jérusalem. L'esplanade des mosquées est un lieu très sensible, probablement le lieu le plus sensible de Jérusalem.
Oui, car cette esplanade abrite deux mosquées qui sont de grande importance pour les musulmans, le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. Selon la tradition musulmane, le prophète Mahomet est passé sur ces lieux et c'est le troisième lieu saint de l'islam après Médine et la Mecque. Mais c'est aussi un lieu très important pour les juifs. Pour eux, c'est là que le premier temple, le temple de Salomon, a été construit. Et le mur des lamentations qui se situe au pied de l'esplanade est un vestige du versant ouest de cette construction. Les juifs n'appellent d'ailleurs pas les lieux esplanade des mosquées, mais mont du temple. En somme, c'est donc un lieu disputé par les deux religions et qui est donc source de tensions très régulières. La venue d'Ariel Sharon, souvenez-vous, alors chef de l'opposition, dans cette enceinte très sensible, c'était le 28 septembre 2000, et bien cette venue avait été considérée comme l'événement qui avait déclenché la seconde intifada.
Alors ce qu'il faut dire aux auditeurs et rappeler surtout, c'est que pour préserver le calme, il existe un statu quo dans la gestion des lieux.
Oui, les accès sont entièrement sous contrôle israélien. Depuis que Israël a pris le contrôle de la partie est de Jérusalem en 1967, il y a 50 ans, mais l'esplanade en elle-même est administrée par le Waqf jordanien. Le Waqf, c'est une fondation religieuse musulmane. Et si ce sont les Jordaniens qui gèrent encore le site, eh bien c'est parce que ce sont eux qui occupaient Jérusalem est jusqu'en 1967. On le disait il y a un instant, cette enceinte est un lieu religieux pour juifs et musulmans, mais selon les règles en vigueur, eh bien seuls les seconds sont autorisés à y prier. Et les adeptes des autres religions sont autorisés à entrer à certaines heures de la journée, mais juste en tant que visiteurs. Interdiction formelle de prier sur les lieux pour eux. Une interdiction globalement respectée, même s'il arrive régulièrement que des juifs viennent y prier. Il y a quelques semaines, un couple s'y est ainsi marié clandestinement. Hier encore, les visites pour les juifs ont été interrompues quelques instants après qu'un groupe de visiteurs a essayé de lire des prières juives sur ce qu'ils appellent donc le mont du temple. Mais les musulmans sont très attachés à ce statu quo. Pas de prière autre que musulmane sur le site, et les tensions actuelles sont liées au fait qu'ils dénoncent une atteinte à ce statu quo.
Ouais. Alors expliquez-nous, parce que si j'ai bien compris, les détecteurs de métaux sont installés à l'extérieur de l'esplanade des mosquées. Alors en quoi cela porterait finalement atteinte à ce statu quo ?
Eh bien, tout d'abord parce que cette mesure a été prise unilatéralement par les Israéliens sans concertation avec la Jordanie qui, je le disais, officiellement gère les lieux. Et il y voit donc, les protestataires voient donc une atteinte à la souveraineté jordanienne sur l'esplanade. Et puis pour les responsables du Waqf et beaucoup de Palestiniens musulmans, eh bien ces détecteurs de métaux compliquent l'accès au site. Le vendredi, jour de la grande prière ou pendant Ramadan, ce sont des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers parfois, qui viennent prier sur l'esplanade. Rendre les accès plus compliqués, plus longs, risque de dissuader certains de venir. C'est en tout cas ce que craignent les officiels. Et si les musulmans sont moins nombreux, eh bien ils redoutent qu'une partie de l'esplanade des mosquées soit alors dédiée à un espace de prière juif. À Hébron, en Cisjordanie, la mosquée Ibrahim, appelée tombeau des patriarches par les juifs, a ainsi été divisée. Une entrée pour les musulmans, une entrée pour les juifs. C'est ce scénario que ceux qui protestent actuellement veulent éviter.
Ouais. Célestin, vous avez une dernière question, je crois.
Oui. Un des leaders de la communauté druze, après ce réunion de tension, a appelé à une protection renforcée. Est-ce que le gouvernement israélien a pris des dispositions à cet effet?
Oui, on rappelle que les deux policiers israéliens tués la semaine dernière étaient membres justement de la communauté druze. Guilhem Deltey, est-ce que les autorités ont pris des dispositions justement pour protéger davantage cette communauté?
Oh, c'est vrai, hein, effectivement, qu'on a constaté un regain de tension, notamment le week-end dernier ou en tout début de semaine, juste après cette attaque de Jérusalem. Un regain de tension qui a été particulièrement sensible à Marar, une localité du nord du pays où vivent Druzes et Arabes israéliens ensemble. Et c'est de là que venait notamment l'un des policiers qui avait été tué vendredi dernier par trois assaillants arabes israéliens. Là aussi qu'il a été enterré. Avant-hier, par exemple, deux mosquées, c'était lundi, deux mosquées de la ville ont ainsi été la cible d'attaque. Une grenade assourdissante a été tirée sur l'une. Des armes à feu ont été utilisées contre l'autre. Mais les deux attaques qui ont eu lieu à l'aube n'ont pas fait de blessés. Elles restent néanmoins assez symptomatiques de ces tensions actuelles dont on parle entre les deux communautés. La police redoute effectivement une certaine escalade, et c'est vrai qu'elle a déployé bien des renforts sur place, et notamment dans les localités du nord d'Israël d'où vivent cette communauté druze.
Guilhem Deltey en direct de Jérusalem. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, Célestin. Merci d'écouter RFI. Ayamou Soukro, il est 10h18 à Paris. 339-693-693-70. Sonia Rollet, du service Afrique d'RFI, nous rejoint à l'instant. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Des questions sur les violences dans les provinces du Kasaï en République démocratique du Congo. Blanchard nous appelle de Kinshasa. Bonjour Blanchard.
Bonjour Juan, et bonjour à tous les invités de RFI.
Nous vous écoutons.
Oui, en fait, la mission conjointe FRDC-ONI vient de révéler 38 nouvelles fosses communes au Kasaï. Pourtant, c'est à 80 des nombres de charniers découverts en moins d'un an. Alors, j'ai des questions là-dessus. Nous retenir en termes de pertes en vie humaine et de déplacer le chef coutumier Kamouna Safou en août 2016.
Alors, le réseau de téléphone, excusez-moi Blanchard, le réseau de téléphone est extrêmement mauvais. Je ne sais pas si vous êtes à l'extérieur. En tout cas, on a du mal vraiment à vous entendre. Vous vouliez savoir, depuis donc le début des violences dans le Kasaï, il y a maintenant un an, quel était le bilan humain, Sonia Rollet, le bilan est très lourd.
Le bilan est très lourd, mais le bilan est inconnu, surtout, parce qu'en fait, personne ne s'est penché véritablement sur les chiffres. Les Nations Unies n'ont pas vraiment produit de chiffres au fur et à mesure des mois. Le gouvernement aussi, jusqu'en janvier, ne donnait aucun bilan du tout de ces violences. Il parlait de plusieurs morts. On se souvient de l'intervention du ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadary, à l'Assemblée, où il avait dit qu'il y avait beaucoup de morts, mais sans donner de chiffres. Donc ça a toujours été un problème. Et les seuls qui ont vraiment produit des chiffres récemment, qui donnent un bilan, mais qui se limitent à ce moment-là à 6 diocèses, c'est l'Église catholique, qui a donc compilé ces chiffres à la fin du mois de juin, juste avant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et qui a expliqué qu'il y avait, selon évidemment l'Église catholique, 3300 morts. Et puis évidemment, ce bilan inclut aussi les dommages pour l'Église catholique. Il y a 60 paroisses fermées quand même. Il y a des centaines d'écoles également fermées ou endommagées. Mais c'est qu'un aperçu, puisqu'on se rend compte, c'est sur 6 diocèses. Donc voilà, on a
3300 morts selon l'Église catholique. À cela, il faut ajouter également tous les déplacés.
Oui, et le nombre de déplacés au Congo a doublé à cause de la crise au Kasaï, puisque là, on est près de 4 millions. Et avant la crise au Kasaï, on était un peu moins de 2 millions. 1 700 000. Donc là, on a vraiment doublé la population réfugiée au Congo. 1 300 000, 1 400 000, avec aussi des réfugiés à l'extérieur du pays. Alors, on sait qu'il y a des dizaines de localités qui ont été brûlées ou endommagées. On sait que cette crise s'étend sur 5 provinces pour des conséquences directes, 8 provinces pour les conséquences de déplacement de population et autres. On est sur une surface qui est l'équivalent de la Norvège, quand même. Donc, c'est vraiment extrêmement préoccupant, mais c'est vrai que il y a encore des difficultés pour l'ONU à enquêter, même s'il y a cette enquête conjointe, et donc on a et le gouvernement est aussi en train de faire ses enquêtes, donc on est sur un work in progress en fait de la manière dont cette crise est perçue, notamment en termes de bilan.
Ouais. Blanchard, vous avez d'autres questions?
Oui, comment fonctionne la dite mission qui la dirige et quels sont ses effectifs?
Alors, la mission conjointe, celle qui a donc découvert les dernières fosses communes, c'est une mission conjointe entre l'ONU et les enquêteurs militaires congolais.
Alors, ça se passe toujours comme ça, en fait. Quand les enquêtes sont soutenues par l'ONU, ce qui est souvent une requête, et d'ailleurs ce qui a été une requête de la justice militaire congolaise suite à la diffusion de la vidéo de Mwanza Lomba, on a un dispositif qui est en fait la justice militaire qui enquête et l'ONU qui vient pour apporter des experts qui sont là pour en fait leur donner l'expertise en fait qu'ils peuvent avoir en particulier. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Et puis, chacun rapporte à son patron. Donc, les experts de l'ONU vont rapporter au commissaire aux droits de l'homme qui va faire des communications régulières devant les conseils des droits de l'homme de l'ONU et qui va partager éventuellement les éléments d'information qu'ils ont supplémentaires à la justice militaire. Et la justice militaire est censée monter ces dossiers, en fait, comme on a pu le voir sur le cas de Mwanza Lomba ou sur la mort des deux experts de l'ONU.
Mais ces experts de l'ONU, ils ont véritablement une marge de manœuvre ou pas?
Mais justement, jusqu'à présent, on avait senti des frictions entre le haut-commissariat et le gouvernement congolais, notamment autour de cette session du Conseil des droits de l'homme, où le haut-commissaire réclamait une commission d'enquête internationale, donc d'avoir les pleins pouvoirs, ce qui a été refusé par le gouvernement. Et donc, évidemment, on est dans une situation là où il y a un nouveau cadre qui a été donné, qui est cette résolution qui a été prise au Conseil des droits de l'homme, qui donne, évidemment, qui reconnaît le lead des enquêtes au gouvernement, mais pour lequel il y aura plus d'experts de l'ONU qui seront envoyés sur le terrain pour faire ces enquêtes.
Merci beaucoup Sonia Rollet, et pour mieux comprendre cette crise dans les Kasaï, je renvoie les auditeurs à la remarquable enquête que vous avez réalisée, un web documentaire en 3 volets à retrouver sur notre site rfi.fr. Khalidou nous appelle de Dakar, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous avez des questions sur le drame survenu samedi à Dakar lors de la finale de la Coupe du Sénégal de football. Je rappelle que 8 personnes ont été tuées et plus d'une centaine d'autres blessées lors de violences en marge de ce match de football au stade d'Emba Diop. Et vous avez plusieurs questions, Khalidou.
Oui, les supporters de l'Union sportive de Wakam sont à l'origine de ces incidents. Voilà, ma première question est... est-ce que des sanctions sont prises à l'encontre du club de l'Union sportive de Wakam par la Ligue du football sénégalais?
Ouais, c'est vrai que la rencontre était organisée par la Ligue de football. Vous avez raison de vous poser cette question. D'ailleurs, son comité de discipline est en train d'étudier cette affaire et doit théoriquement rendre une décision d'ici à 2 semaines. Bonjour Lou Garçon.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes l'une des correspondantes de RFI au Sénégal. On attend donc le verdict, en tout cas la décision de la Ligue de football, mais il semblerait qu'une autre décision a déjà été prise du côté de la Fédération de football.
Effectivement, une sanction conservatoire a déjà été prise par la fédération qui est en fait juste au-dessus de la Ligue de football. Elle a décidé donc de suspendre l'Union sportive de Wakam, le club dont les supporters sont accusés d'être à l'origine du mouvement de foule meurtrier. Suspension décidée par le comité d'urgence de la fédération au motif que le club n'a pas su gérer ses supporters. Et donc l'USO, comme on l'appelle à Dakar, ne peut plus participer à aucune compétition. Il est de fait presque inexistant. Hein. En septembre, lors de la prochaine assemblée générale de l'organisation, une décision sera prise définitive cette fois-ci, plus clémente peut-être, mais cela étonnerait tout le monde, ou alors une confirmation de la suspension. Et certains prédisent même une potentielle dissolution du club.
Ah oui.
Il faut dire que l'USO jouit d'une triste réputation. Ses supporters sont régulièrement impliqués dans des affrontements. Le club a déjà été sanctionné. Mais vous savez, la violence pendant ou à la sortie d'un match concerne également d'autres équipes. À Dakar, les gens évitent, dans tous les cas, de se trouver à proximité d'un stade lors d'une grande rencontre, car les agressions sont fréquentes. Donc, en toute logique, il faudra que d'autres mesures soient prises pour que de tels comportements ne se reproduisent plus. Alors, j'ai joint par téléphone pour une réaction le président du club de Wakam. Il dit que son club assume sa part de responsabilité, mais affirme se sentir condamné d'avance. Selon lui, il y a eu des failles dans l'organisation. Un nombre insuffisant de policiers, dit-il, trop de places vendues. Et il aurait aimé que la fédération, en fait, attende les conclusions des enquêtes judiciaires, notamment, avant de se prononcer.
Ouais, et on se souvient d'ailleurs qu'il y a 6 ans, le club de Wakam avait déjà été suspendu, suspension d'un an, à cause justement d'incidents provoqués par ses supporters violents. Vous êtes à Dakar, vous avez été peut-être témoin des incidents, des violences de samedi dernier. Appelez-nous, nous vous donnerons évidemment la parole demain dans la libre antenne. Donc vous pouvez évidemment nous rejoindre 33 9 693 693. 70. Khalidou, vous avez une autre question, toujours sur ces événements.
Oui, mais comment la police a-t-elle réagi face aux critiques de certains témoins qui affirmaient que le dispositif sécuritaire n'était pas suffisant?
Lou Garçon, c'est vrai que la police fait face depuis samedi soir à de nombreuses critiques. On l'accuse de ne pas avoir réagi face aux émeutiers, de ne pas avoir déployé suffisamment d'agents ce soir-là. En tout cas, sa première réaction a été d'envoyer un communiqué au lendemain du drame.
En fait, la police a tout de suite rejeté toutes les critiques. Vous venez de le dire, certains spectateurs l'accusent de ne pas s'être interposé. D'autres, dont certains avec qui j'ai parlé sur place moins d'une heure après le drame, affirment que les forces de l'ordre ont contribué à la panique en tirant des grenades lacrymogènes. Alors voici la réponse de la police dans son communiqué. Dans des situations pareilles, la présence de la police n'est pas le rôle de la police, pardon, n'est pas de charger, mais plutôt de contenir la foule pour éviter plus de dégâts. Jusqu'à présent, la police refuse de donner le nombre exact d'agents déployés ce soir-là, mais jure qu'ils étaient suffisamment nombreux et que les responsables sont bien les supporters de Wakam. Lundi, lors de sa conférence de presse pour faire le point sur l'enquête, le procureur du tribunal de Dakar, Bassirou Gueye, a soutenu la police. Aucune piste ne mène aux forces de l'ordre, a-t-il indiqué.
Oui, le procureur qui assure que les forces de l'ordre n'ont aucune responsabilité. En tout cas, une enquête est en cours. Aucune piste ne sera négligée, a d'ailleurs déclaré le procureur de la République lors de cette conférence de presse. Évidemment, affaire à suivre. Je rappelle donc le lourd bilan de ce drame samedi soir à Dakar. 8 personnes tuées et plus d'une centaine d'autres blessées. Merci d'avoir été avec nous, Lou Garçon. Khalidou, bonne journée à Dakar. Vous nous écoutez sur les 92 FM. Et je le redis, je le répète, si demain dans la libre antenne, vous souhaitez réagir à ces événements, aux sanctions annoncées notamment, puisque Lou Garçon vient de nous parler donc de cette décision de la Fédération de football de suspendre l'Union sportive de Wakam. N'hésitez pas, appelez-nous, inscrivez-vous dès maintenant pour la libre antenne de demain. On va donc marquer une pause. Comme tous les jours, on va retrouver évidemment à cette heure-ci la rédaction d'RFI pour le dernier point complet sur l'actualité. Et on reviendra juste après pour notre débat sur Laurent Gbagbo et cette question qui suscite énormément de réactions au standard et sur notre page Facebook de l'émission, Laurent Gbagbo doit-il bénéficier de la liberté provisoire? Hier, la cour d'appel de la CPI a ordonné à la cour de réexaminer la situation de l'ancien président. Il faut quand même rappeler que les avocats de Laurent Gbagbo ont à 11 reprises demandé sa libération conditionnelle et ces demandes ont systématiquement été rejetées par la Cour pénale internationale. La Cour pénale va donc devoir à nouveau se pencher sur cette question. Aucune date n'a été fixée pour l'instant, mais ce sera l'occasion évidemment pour nous de débattre et d'en parler ensemble. Quelques-unes des réactions qui nous arrivent, par exemple Doul sur Facebook qui nous dit « Cette décision constitue une première victoire pour la défense de Laurent Gbagbo. » Henri estime que jusqu'à présent les arguments invoqués pour justifier la non-libération sont assez subjectifs. Il pense donc que la Cour pénale internationale va finalement libérer l'ancien président ivoirien. On en parle dans 10 minutes.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.